Chronique du Pays Toulousain. Une émission proposée par les Toulousains de Toulouse avec Aline Thomazin et Sébastien Pénary.
Bonjour chers auditeurs, une chronique du Pays Toulousain en compagnie d'Aline Thomazin. Bonjour Aline.
Bonjour Sébastien.
Et bonjour Michel de Rivoire.
Bonjour Aline, bonjour Sébastien.
Alors nous étions restés à l'hôtel de Pierre et nous ne l'avons pas quitté. Alors nous retrouvons quelle famille et quand ?
On était en admiration béate devant la façade.
Bah oui, 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 oui. 19e, mais très enrichi au 19e, mais parfaitement assez fabuleuse. Mais on rappelle peut-être le thème, puisque ça fait un petit moment qu'on s'est quitté. C'est le thème des familles, du patrimoine et des familles. Le lien entre le patrimoine et les familles, familles et demeures. Et c'est très exactement ce sur quoi nous allons revenir pour l'hôtel de Pierre, parce que l'hôtel de Pierre, avant d'arriver au 19e siècle, a quand même eu un vécu lié à une succession de familles dont
Michel va nous parler. Et est impliqué dans la vie politique de toulousaine. On a déjà observé ça à l'hôtel d'Assesa, si vous vous rappelez, avec notamment la famille de Puymorin qui utilisait la totalité de l'hôtel, du sous-sol jusqu'au comble. Eh bien, c'est ce qui se passe à l'hôtel de Clary, sachant que l'hôtel est tellement grand, les corps de bâtiments sont très, très, très importants autour de la cour et permettent de louer des appartements. Ça se faisait déjà au XVIIIe siècle. Mais revenons à ce qui se passe après le fondateur, qui, rappelons-le, s'appelle François de Clary, président de Clary. Il n'avait qu'une fille unique dont on ne sait pas grand-chose, mais elle a dû garder quand même la propriété de l'hôtel jusqu'en 1654, date à laquelle l'hôtel est vendu à un monsieur Richard de Jean.
Alors, qui est ce monsieur Richard de Jean ? Est-ce qu'il est de la bonne société ?
C'est un marchand.
Ah.
Alors, l'histoire ne dit pas du pastel, parce qu'on est déjà au bien milieu du XVIIe siècle, on n'en parle plus.
On a passé l'âge d'or.
Voilà. En revanche, il a prêté de l'argent, puisqu'à l'époque, pas de système bancaire, donc il fait fonction de banquier, et il s'enrichit grâce au retour sur investissement. Le cursus classique, on le retrouve capitoul 5 fois. Sur 5 années, vous savez que c'est à cheval entre deux années civiles. Et il a quelques propriétés extérieures à l'extérieur de Toulouse, mais qui ne sont pas à la hauteur de ses ambitions d'aristocrate.
Oui, parce que le capitoula l'a anobli. Rappelons-le.
Voilà. On peut même citer, sans la citer intégralement, mais l'ordonnance de Folembray de 1552, c'est le roi Henri II qui avait donné par lettre patente le droit à une famille bourgeoise de vivre noblement dès lors que le père et le fils avaient été capitouls. Voilà. C'est dit en vieux français, mais je vous le cite en résumé. Donc, même prérogative que la noblesse d'épée. Enfin, c'est quand même immense à l'époque comme ouverture.
Et très recherchée.
Et très recherchée. Et en plus, très transmissible par les femmes. Ce qui était un additif, on pourrait dire. Donc, tous ceux qui peuvent, qui ont les moyens, ils s'engouffrent. Et c'est le cas de ce Richard de Jean. Alors, il va acheter Clary, l'hôtel de Clary, et le gardera, lui et son fils, un peu plus de 50 ans.
Ah oui.
Il sera vendu en 1710. Entre-temps, il se sera porté acquéreur d'une vraie seigneurie, c'était dans le sens de seigneurie noble, qui s'appelle la baronnie de Launac. Launac, j'allais dire en patois, mais c'est Launac, dans dans l'arrondissement de Grenade. Et nous en parlerons peut-être dans un deuxième temps. On va finir la chronologie de l'hôtel de Pierre pour que nos auditeurs ne soient pas perdus. Mais c'est très important dans la stratégie foncière de se dire
qu'il
a un des plus beaux hôtels. Il a ce Richard de Jean, il a acheté un des plus beaux hôtels de la ville. Et ce n'est pas fini. Il faut qu'il ait la seigneurie noble, vraiment noble. On en parlera après. Et donc,
il va sans doute porter le nom.
Et oui, il se fera appeler baron de Launac, mais pas très longtemps, parce qu'il meurt, la seigneurie est achetée en 1682, il meurt 7 ans après. Mais il pense à sa descendance.
Oui, voilà. Oui.
Bon, que se passe-t-il à Toulouse ? Eh bien, ils ne doivent pas faire de bonnes affaires. Le fils, en tout cas, de Richard de Jean, ne doit pas être très, très économe de ses
sous. Moins bon commerçant que son père.
Ou surtout, le plus prosaïque, c'est qu'il devait avoir beaucoup d'emprunts à rembourser. Et les dettes sous l'Ancien Régime, relisons Molière, qui vous voulez, La Fontaine et beaucoup d'autres auteurs, les dettes qu'on ne peut pas rembourser, c'est la saisie. Voilà. Alors, ce n'est pas la saisie comme aujourd'hui avec l'huissier devant la porte, mais ce sont des arrangements de famille, des arrangements, on pourrait presque dire du troc. Et c'est ce qui a dû se passer en 1710, lorsque Château de Launac, Baronny et l'hôtel de Pierre sont vendus aux enchères. Et ils sont vendus aux enchères à Toulouse, pas à l'hôtel Saint-Georges, qui n'existe pas encore, mais peut-être à la Criée, on ne sait pas ces procédures. Et c'est vendu à une famille, à une famille qui s'appelle Daguin, D'apostrophe Aguin, mais le nom, l'orthographe, c'est aussi contracté Daguin, qui sont d'abord de simples marchands aussi, au 16e, 17e, et même, excusez-moi de me répéter...
Capitoul,
là, ouais. Le même cursus. Et ce Nicolas Daguin, qui se porte acquéreur, devient baron de Launac. Il achète
prend la succession du nom.
Il a la finalement. Suite. Oui. Il relève le nom. Alors, dans ses attributions, ce Nicolas Daguin, nouveau propriétaire de l'hôtel de Pierre, il est au départ greffier au bureau des finances, mais il s'élève toujours parce qu'il a des capacités financières. Il arrive à être conseiller du roi, est un passe-droit, j'allais dire, c'est son retour. C'est comme un fonctionnaire aujourd'hui, c'est tout à fait
c'est
ça.
C'est des offices qui sont vendus pour financer le train de vie de l'État. Alors, quand il n'y a plus d'argent dans les caisses,
et le premier débiteur, c'est le roi de France.
Oui.
Alors vous imaginez derrière. Et tout tient comme ça. Et d'ailleurs, c'est ça, c'est l'effondrement de l'Ancien Régime, c'est d'abord une cause comme ça, financière. Et donc, il arrive à devenir président trésorier de France de la Généralité de Toulouse. Et ça, c'est vraiment l'aboutissement de carrière.
Ce sont des postes de pouvoir.
Voilà. Et financier. Donc, il n'en profite pas. Il dénombre ce Nicolas Daguin, la baronnie de Launac, en 1713. Donc, vraiment, il joue dans la grande cour. Et c'est son fils, Jean-Joseph Daguin. On donne ces dates pour un peu fixer dans la chronologie, le curseur, 1697-1761, c'est ce Jean-Joseph Daguin qui va vraiment jouir de l'hôtel de Pierre
le
plus
longtemps. Lui, il l'a gardé longtemps.
Il a tout ce qu'il faut au Parlement comme charge, conseiller d'abord, puis président de la deuxième chambre. Alors, il n'habite l'hôtel qu'en 1727. Je ne sais pas où il était avant. L'histoire ne le dit pas. Mais comme l'hôtel restera dans sa famille, on peut supposer qu'il restera jusqu'à sa mort. Alors, jusqu'à sa mort en 1759. C'est un personnage qui est vraiment emblématique. Ils sont peut-être une centaine, pas beaucoup plus, de personnages toulousains du XVIIIe siècle, à la fois président Mortier, mais aussi mainteneur de l'Académie des Jeux Floraux. Bref, c'est des cumulards. Voilà.
Et donc, à son décès, l'hôtel passera...
Alors, il a un fils qui a le même nom que lui.
Par succession,
calme. La Révolution approche, ça sera beaucoup moins calme.
Ah.
Mais son fils Jean-Joseph II, Daguin, qui épouse une mademoiselle de Rességuier. Alors là aussi, on coche la case stratégique patrimoniale
société,
de ces familles,
oui.
Bien sûr. Et il se retire dans sa résidence à la campagne, on pourrait dire, dans sa résidence champêtre de Launac, à la fermeture des parlements de Maupeou, vous savez, le moment 1771, quand la réaction des parlementaires. Et c'est une résidence champêtre bien agréable pour passer quand même un exil doré.
Donc il va quitter un moment son bel hôtel.
Alors voilà, on ne sait pas dans ces cas-là qu'est-ce qui se passait, mais on peut penser que... C'est l'Ancien Régime, on ne peut pas raisonner tout. Donc
aujourd'hui.
Si le parlementaire est exilé, c'est une lettre de cachet signée de Louis. Mais est-ce qu'on va vérifier? Je ne sais pas. Et toute son intendance, toute sa famille peut très bien rester à la maison, c'est-à-dire Toulouse.
Ah oui.
Voilà. Mais il n'y a pas de contrôle.
Oui, il
n'y
a que lui qui est exilé, finalement.
Par contre, ce qui va se passer 30 ans plus tard,
il est exilé
en pleine terreur.
Où?
Alors, c'est une expression typiquement de l'administration royale, parlementaire, c'est-à-dire ces rapports houleux entre le roi central
et les parlements.
Et les parlements. on l'envoie, le roi, on l'est, si vous voulez, pas un édit, si un édit est pris, qu'il y a un refus d'enregistrement, le blocage est tel, au bout d'un certain temps, que le roi n'a plus que cette solution d'exiler. C'est le terme employé, un exil, de chaque membre du Parlement en général, dans sa résidence à la campagne.
Oui, voilà, voilà. Il est exilé à Launac.
Il est exilé à Launac. Bon, la suite est beaucoup moins brillante.
Sans doute, oui.
Parce qu'on se trouve donc avec, à la Révolution, comme il fait partie, des, vous savez, la charrette, j'allais dire, des parlementaires, pour résumer, c'est pour Rejean, mais enfin, ils avaient protesté contre la fermeture des parlements en 1790, et ils ont été sanctionnés par le tribunal révolutionnaire, au terme d'un processus long, qui les a emmenés à l'échafaud, 26 prairiales en 2, 1794. Ils ont tous été guillotinés, et lui en faisait partie, voilà. Donc, à sa mort...
Donc, quel est le sort de ce bel hôtel?
Alors, l'hôtel, lui, reste. Il ne sera pas ni démoli, ni...
Il reste
pas
dans
du
la
tout,
famille.
Parce que, alors, il est confisqué.
Ah.
Vous savez, on n'a pas trop le temps cette fois-ci, mais de toutes les lois qui sont
bien nationales,
bien nationales.
Oui, d'accord.
Lorsque le soit il y a un suspect ex-noble, la loi des suspects ex-nobles, soit émigré, ce qui n'est pas son cas puisqu'il est passé à l'échafaud. Mais dans les deux cas, la République confisquait le bien avec ou sans indemnité ceux qui restaient de la famille. Et il est vendu comme bien national à un certain Jean-Pierre Sarmejeanne, qui lui-même est un ancien capitoul.
Ah oui.
Enfin, il n'a pas les oripeaux de la noblesse.
Oui.
Donc on ne l'a pas trop embêté.
Oui, oui.
Voilà, l'hôtel finalement passera à la Révolution. Il est vendu aussi au négociant Esquirol, qui n'est pas celui de l'hôpital.
Oui.
Mais... ça deviendra une maison, un lieu de rapport.
Ah oui,
des appartements.
Oui. Et donc cet hôtel va subir quand même des modifications, on va dire des enrichissements ornementaux
quand même,
au niveau de la rue.
À une commande d'architecture Bain-Vitry qui est extrêmement en vue, bien en vue au XIXe siècle, et des sculptures qui seront rajoutées. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, Aline.
Voilà. Et
l'harmonie est restée.
Oui, tout ceci est la traduction de la vie de cet hôtel et de la vie des familles, surtout qui l'ont habité. Merci beaucoup, Michel, pour avoir achevé l'évocation de l'hôtel de Pierre et des familles.
Merci, Aline.
Bonne semaine.